C'était Mama Bea Tekelski qui nous chantait « Les gens ». Nous continuons notre conversation en compagnie de Claire Lucchetta, qui est militante très active dans la campagne à propos de la votation pour la loi contre la discrimination raciale, l'expression publique de la discrimination raciale. Claire Lucchetta, qui est militante très active de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Claire Lucchetta.
Il y a peut-être une dernière peur que l'on pourrait citer, Claire Lucchetta, c'est la peur aussi d'être noyée et pris comme un petit numéro de nouveau dans l'histoire du monde. Parce qu'on a déjà vécu ça à propos des votations sur l'ONU, à propos de l'Europe, et cela revient régulièrement, puisqu'à l'origine de cette votation et du changement dans le Code pénal suisse, il y a le désir du gouvernement suisse d'adhérer à une convention qui a été proposée par l'ONU, signée déjà par, je crois, 129 États, donc largement approuvée dans le monde, et certains prétendent que si nous adhérions à cette convention, une fois de plus, nous serions mangés par le monde et l'ONU en particulier. Alors, est-ce qu'on peut une dernière fois peut-être faire tomber ce type d'argument, d'autant plus que le papier qui véhicule ce genre d'idée est particulièrement mensonger, dans le cas, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le cadre de cette campagne qui mélange tout et qui désinforme.
Oui, tout à fait. Alors bon, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes un pays dans le monde et qui a une interdépendance actuelle entre tous les pays, et que j'entends, c'est absolument ridicule de s'imaginer qu'un pays quelconque, même la Suisse, peut vivre en totale autarcie. Je crois que le nombre de nos concitoyens qui vont à l'étranger, qui achètent des produits à l'étranger ou qui achètent en Suisse des produits venant de l'étranger montre que il y a une interdépendance, même au niveau de la consommation courante, au niveau des vêtements, au niveau de la nourriture. C'est banal de le dire, mais peut-être qu'il faut effectivement le répéter. Il y a également, la Suisse a déjà adhéré à je ne sais combien d'accords internationaux, que ce soit dans le cadre de l'ONU, que ce soit dans le cadre d'autres organisations internationales, ou que ce soit des accords bilatéraux. Est-ce que la Suisse est mangée par les pays étrangers? En plus de ça, cette idée de voir tous les pays étrangers comme des menaces virtuelles pour notre pays, ça c'est quelque chose qui personnellement m'inquiète énormément. Mais je le répète, je suis persuadée que la majorité de nos concitoyens se rendent compte que c'est un argument qui est totalement faux. Notamment parmi les jeunes, et j'encourage énormément la jeunesse à aller voter, parce qu'au fait, c'est leur pays, c'est ce qu'on va leur laisser. Moi, j'ai des enfants qui sont maintenant étudiants, et c'est leur pays qu'on est en train de forger. Et la jeunesse suisse n'a pas le droit de s'abstenir. La jeunesse suisse n'a pas le droit, n'a pas le droit de ne pas aller dire oui à cette loi, parce qu'il en va simplement de leur survie.
Peut-être pourriez-vous, puisque vous l'avez sous les yeux, Claire Lucchetta, nous montrer comment justement un document peut être désinformateur dans le cadre de cette campagne. Vous avez sous les yeux, vous allez... un papier qui, justement, affiche en grand non à cet article anti-suisse, et je crois que vous le trouvez particulièrement, justement, désinformateur.
Bon, il est mensonger de la première à la dernière ligne, de la première à la dernière lettre, je dirais même. D'abord, on voit ce pauvre petit armaillé, ou prétendu tel, avec un sparadrap sur la bouche. Moi, j'ai toujours envie de dessiner ce petit armaillé en train d'enlever son sparadrap et de dire « mais moi, je dirais oui, parce que je sais que ma survie en dépend ». Lorsque dans ce petit tract, on met « vous risquez d'être poursuivi en justice pour avoir osé écrire, je cite, que vous désireriez dans votre appartement un locataire suisse », c'est absolument faux, c'est un contrat privé, comme je l'ai déjà dit, ce n'est que l'incitation publique à la haine raciale ou le refus de servir d'une prestation offerte au public par un restaurateur, un cafetier, un commerçant ou un hôtelier. Donc ceci est absolument faux. Il en va de même pour la liberté d'engager du personnel. La liberté d'engager du personnel n'est absolument pas touchée puisque là aussi il s'agit d'un droit absolument privé. Un autre des arguments des opposants à la loi, c'est de dire « vous serez poursuivi toujours, envisagez-vous sereinement d'être poursuivi en justice pour avoir constaté une criminalité étrangère inquiétante ?» Ah ben, on ne risque rien pour avoir constaté une criminalité étrangère, suisse ou je ne sais quoi, inquiétante, puisque c'est un constat, il n'y a pas l'incitation à la haine, il n'y a pas la volonté de nuire dans ce constat. Pour avoir rappelé publiquement les dangers de l'islam, merci pour l'islam, je me suis déjà exprimée là-dessus il y a quelques minutes, effectivement, les dangers du fanatisme, quel qu'il soit, effectivement, si c'est pour l'avoir rappelé, eh bien, il n'y a absolument aucune possibilité d'être poursuivi en justice pour tout ça. On dit également, certains disent que la position des États-Unis est utilisée d'une manière absolument incohérente par les opposants à la loi. Ils disent que les États-Unis n'ont pas signé la convention. Alors, les États-Unis l'ont signée, elle n'a pas encore été... La convention internationale n'est pas encore ratifiée par les États-Unis, mais c'est une affaire qui est à bout touchant. Et je crois que, en tout cas, la politique de Clinton, c'est de faire ratifier cette convention. On dit, par contre, que... Comme aux États-Unis, il y aura des contingents obligatoires de personnes de couleur ou d'étrangers dans les administrations. C'est absolument faux. Et vous voyez bien qu'un pays n'a pas besoin de cette loi pour avoir déjà des mesures, enfin n'a pas adhéré à la convention, mais à certaines mesures qui touchent à son administration. Donc l'argument des États-Unis est un argument absolument faux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui. À propos du passeport antiraciste que la LICRA a lancé avec d'autres associations telles que les syndicats et le gouvernement du canton de Genève et d'autres sponsors, ce petit passeport, certains disent qu'il incite à la délation parce que l'on dit aux victimes eh bien, qu'effectivement, elles pourront soit s'adresser à la police, soit à l'autorité politique, soit prendre conseil auprès d'un avocat ou d'une association de défense des droits de l'homme ou des syndicats par rapport à l'agression dont elles ont été victimes ou témoins. Mais j'entends, si... on pense que l'on peut attaquer son voisin par rapport à cet article du code pénal, il faut supprimer tout le code pénal, parce que tout le code pénal actuellement permet de dénoncer son voisin. Si vous avez envie de dire que votre voisin maltraite son chien, bat sa femme, ou a je ne sais quel comportement indécent et délinquant, vous avez la possibilité de le dire actuellement. Donc la personne qui a envie de traîner ses voisins en justice, simplement pour les embêter, a déjà la possibilité de le faire actuellement. Elle n'a absolument pas besoin de cet article-là pour prouver sa mauvaise volonté.
Alors peut-être pour conclure, Clariqueta, oui, là je vous fais faire vraiment tout à coup un résumé incroyable de tout ce que vous avez vécu depuis de nombreuses semaines. À votre avis, qu'est-ce qui... maintenant est l'ultime geste? Vous aimeriez rajouter quelque chose sur la diffamation, sur la désinformation?
Oui, alors effectivement, je lis encore dans cette, ces mauvais arguments contre la loi. Cette loi pourrait aussi frapper une légitime critique de la funeste politique de l'asile et de la drogue. C'est absolument faux. Ça n'a strictement rien à voir avec. Les propos sur les convictions morales, c'est complètement faux également. Le reste, je l'ai dit, en ce qui concerne le travail, le logement, eh bien, ceci fait partie du privé, ne fait pas partie du public, elle ne concerne pas effectivement l'incitation à la haine raciale. C'est vrai qu'à force d'entendre des mensonges, je finis moi aussi par me répéter.
Brave nègre! Nègre civilisé, nègre du sud, nègre acharné. Nègre malin, nègre septentrional, nègre perfide.
C'est Colette Magny qui nous parlait du brave nègre. Pour nous finissons en quelques mots notre conversation avec Claire Lucchetta de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.
Alors, parce il nous reste simplement une chose, c'est pas parce qu'un mensonge est répété 10 fois qu'il devient une vérité.
Alors, chers auditrices, chers auditeurs, il vous reste quelques jours pour convaincre les gens autour de vous, essentiellement d'aller voter, nous le disions tout à l'heure, peut-être de renverser certains de ces mensonges qui sont vraiment... Ce qui est frappant quand même, c'est que même très publiquement, ces gens n'hésitent pas à dire ces mensonges, alors qu'ils savent bien qu'ils ont en face d'eux des juristes, des hommes politiques qui connaissent bien les textes et qui peuvent tout de suite démonter leurs mensonges. Ça ne les gêne pas pour autant de les formuler, c'est ça qui est assez incroyable.
Si vous le permettez, j'aimerais rajouter 2 choses. J'aimerais rajouter qu'une des personnes qui, en Suisse, diffuse actuellement de la propagande raciste et négationniste, notamment ce que nous appelons les falsificateurs de l'histoire. Cette personne a écrit récemment « Une nation saine, dirigée par son élite naturelle, estimera absurde le suffrage universel ». Donc c'est bien la preuve que ces gens-là, ce qu'ils veulent atteindre au loin, au fond, c'est simplement le principe de la démocratie. Maintenant,
cela même qui appelle à la liberté d'expression.
Cela même qui appelle, bien entendu, à la liberté d'expression. Vous avez tout à fait raison de le dire. Et il faut savoir également que notre pays risque, si le nom l'emporte, de devenir la plateforme européenne seront lancés les appels à la haine, la publication d'écrits nazis, d'écrits racistes, puisque ce genre de choses est absolument interdit dans les pays qui nous entourent, eh bien, notre pays non seulement l'autorisera, si c'est le nom l'emporte, mais en plus de ça, pourra devenir alors un asile pour toute une catégorie d'extrême droite internationale dont nous n'avons absolument pas besoin et qui ne correspondent pas aux principes fondamentaux de notre état de droit, qui est le respect de l'autre.
Voilà, ben, je vous remercie beaucoup.
Cette femme qui, dans son propre pays, s'est engagée aux côtés des non-racistes, vous l'aurez bien évidemment reconnue, c'est Myriam Makeba. Alors, en deuxième partie de cette émission, pour évoquer toujours la votation sur la loi contre l'expression publique du racisme, eh bien, j'ai rencontré Fatima. Fatima est une femme brésilienne. Elle vit en Suisse maintenant depuis 7 ans. Je vous le disais, j'avais envie de donner la parole à quelques-uns de ces étrangers, en l'occurrence une étrangère, qui eux se trouvent exclus de tout ce débat. Fatima, elle, se considère aujourd'hui comme bien intégrée, on dirait. Mais, elle vous le racontera, finalement, à quel prix, avec quelle dose d'effort pour se faire accepter dans notre pays et qui parfois vous donne envie de dire « il y en a marre, j'en ai assez, je rentre chez moi ». Et puis, Fatima nous racontera ce qu'elle a vécu, elle, depuis qu'elle est en Suisse, en quelques mots, témoignage d'un sentiment de ceux qui sont concernés par cette votation depuis le début et puis qui n'ont rien à y dire, puisqu'ils n'auront pas le droit de vote. Fatima, par ailleurs, est particulièrement bien placée pour nous parler du sentiment des étrangers, non seulement parce qu'elle est elle-même étrangère, mais parce qu'aussi de par son travail au service d'accueil des réfugiés de l'Hospice Général, eh bien, elle accueille tous les jours des gens qui, bien que ne le disant pas directement, expriment les sentiments qu'ils ont au contact de la population suisse et, malgré tout, de ce racisme larvé dont font souvent, sans peut-être l'admettre, que font souvent les Suisses. Alors tout de suite, une rencontre avec Fatima.
Je viens d'une culture qui est autre que la culture suisse, la culture de ce pays. Mais pour moi, est-ce que la difficulté que j'ai rencontrée principalement il y a 7 ans, bon, d'une part, c'était la langue, je ne parlais pas français à l'époque, et d'autre part, c'était la communication d'une manière générale. Parce que je suis arrivée avec mon bagage culturel, hein, qu'au Brésil on parle facilement avec tout et tout le monde. Et puis je me suis sentie un peu isolée au départ, un peu isolée parce que je pouvais pas communiquer. Et cela malgré la langue, hein, c'était pas uniquement la langue, c'était la manière de vivre ici. Et puis ça, c'était très difficile pour moi au départ. Au début, c'était très difficile. Donc, je me suis forcée presque d'apprendre le français pour pouvoir un outil pour dépasser cela. Mais c'était très difficile.
En arrivant en Suisse, vous vous attendiez à ce que ce soit difficile, venant du Brésil ?
Non. Non, même si je connaissais déjà des Suisses. Même si j'avais des copains, j'avais entre autres un ami d'enfance qui habitait à Genève à l'époque. C'est à cause de lui que je suis venue là, à Genève précisément, parce que j'aurais pu choisir un autre endroit. Et puis je ne m'attendais pas du tout à cela. Je croyais que comme c'était un petit pays, le contact était beaucoup plus facile. Moi que je viens d'une ville qui est très grande, très anonyme. Je croyais que c'était beaucoup plus intime ici, à Genève, en Suisse.
Et est-ce qu'au cours des années qui vous ont mené jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu affaire à l'objet de notre discussion aujourd'hui, à savoir à des attitudes, des propos racistes? Est-ce que vous vous êtes senti discriminée en Suisse, pas d'une façon ou d'une autre? Là, vous parliez de la communication. C'est assez subtil comme discrimination. Hein. Les gens ne vont sûrement pas dire, mais enfin, c'est pas parce qu'on ne lui cause pas qu'on est raciste. Comment vous l'avez ressenti? Est-ce que vous avez ressenti cette façon de mettre un peu les gens à part parce qu'ils sont différents de nous?
Oui. Oui, mais toujours d'une manière très subtile. Je crois que c'est, je ne veux pas généraliser, mais c'est une caractéristique de la Suisse que j'ai trouvée. C'est cette manière subtile de dire les choses, hein, ou de montrer les choses. J'ai ressenti, oui, une certaine discrimination. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire si ça serait à cause de la couleur, de la culture, de la langue. Ça serait très difficile pour moi de préciser. Mais une discrimination, rien que dans le discours quotidien de beaucoup de personnes. Parce que ici, on parle de... C'est la Suisse ou l'Europe et les autres, en fait. Moi, je ressens assez fortement, même chez les gens qui sont très, très ouverts, hein, qui se disent pas racistes ou des personnes ouvertes, je ressens qu'eux-mêmes, ils font cette différence entre une certaine... Je ne peux pas dire supériorité, mais un savoir-faire qui est différent, qui veut mieux qu'ailleurs, ici. Ça, je ressens.
Très concrètement, face à vous, vous vous souvenez de choses qui, où vous vous êtes senti discriminée?
Non, je n'ai pas... À moi, directement, non. Non, parce que je crois que c'est aussi dû à un certain comportement. Moi, je pense que je ne leur ai pas donné la chance. D'avoir ce discours, d'avoir ce comportement plutôt, hein, parce que le discours, il y est. Mais j'ai d'autres exemples, oui, des personnes que, par exemple, se font traiter de nègres dans les rues. Et des copines qui sont métisses comme moi, de peau plus blanche que moi, Mais que, par exemple, là, j'ai un exemple en tête de deux copines brésiliennes qui étaient en train de discuter dans un bar. Et puis, tout à coup, il y a deux personnes qui s'assiedent à côté. Et puis, parce que ces deux filles rigolaient assez fort, les deux personnes qui étaient à côté l'ont demandé de se retirer. Parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Elles n'étaient pas chez elles, en fait. C'était l'argument que ce monsieur a donné pour qu'elles se retirent. C'est directement avec moi, ça ne m'a jamais arrivé. Mais j'ai plein d'exemples comme ça. Dans les magasins aussi, on ressent beaucoup ces genres de choses. Des personnes qui viennent acheter, des Brésiliennes, encore une fois, j'ai l'exemple d'une fille brésilienne. Que son petit enfant commence à pleurer dans le magasin et puis la dame lui demande très clairement de se retirer parce que c'est pas dans les mœurs.
Laisser pleurer son bébé dans le magasin.
Oui, ça se fait pas en Suisse. Donc, ouais, de lui demander carrément qu'elle se retire. Ça m'est jamais arrivé personnellement, mais j'ai un tas des collègues, des copines... qui ont vécu ce genre de choses.
Donc c'est vraiment pas justement crier nègre comme ça fort dans la rue, mais c'est dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien, on en profite pour mettre en évidence les différences de race, de culture, de façon d'être.
Tout à fait. Je crois que la discrimination ici, ça se passe un peu de cette manière. C'est dès que ça dépasse les mœurs, on le fait savoir. Et puis on se fait savoir, non, en disant je suis raciste, je suis contre ou pour un blanc, un noir ou autre, mais on le fait savoir en disant vous êtes différent, en montrant qu'ici c'est pas comme ça.
Mais aujourd'hui la loi que l'on se propose de faire approuver par le peuple suisse, qui est donc de punir les gens qui publiquement ont des propos ou des actes racistes, elle ne punirait pas ces actes-là parce qu'ils sont très insidieux, effectivement, et ils ne sont souvent pas un appel. Je veux dire, je suppose que la vendeuse en question, par exemple, n'a pas crié dans tout le magasin, mais regardez cette femme qui laisse pleurer son bébé, il faut la mettre dehors ou ce qu'elle se croit. Donc, ces actes continueraient à ne pas être punis. Est-ce que, pour vous, il faudrait agir contre... Qu'est-ce qu'il faut faire ou... Cette loi, à votre avis, elle concerne des choses dont vous avez entendu parler ou vous avez vécu?
Cette loi, pour moi, ça concerne plus dans le cadre de mon travail. Face à des réfugiés, par exemple, hein, c'est cette discrimination qu'il y a qui est très claire. C'est le genre de choses que je crois qu'on pourra punir, comme les attaques à des hébergements pour les réfugiés ou autres. C'est principalement ça, parce qu'effectivement, cette susceptibilité suisse de montrer ce qui ne va pas, ce serait très difficile d'attendre, je pense. Mais moi, je pense que cette loi, ce serait plutôt une reconnaissance de la part de la population suisse de ces différences. C'est pour ça que je trouve qu'il est extrêmement important que cette loi passe, parce que ça peut être un début d'une reconnaissance, parce que je pense qu'il faut changer un peu le discours.
Reconnaissance du fait qu'il y a des gens qui ont des attitudes très racistes en Suisse.
Oui.